prions ensemble. Ô Dieu, quel privilège de pouvoir baisser notre tête aujourd'hui et faire appel à notre Dieu vivant. Tu sais, Seigneur, combien nous avons besoin de toi pour souffler cette vie dans la parole, pour ouvrir notre pensée afin que ce culte ait un but dans ton royaume. Pour que cela puisse porter du fruit en ces temps et pour l'éternité. Ô Seigneur, fais-nous grâce, s'il te plaît, et bénis-nous. Amen. Alors, j'ai un challenge devant moi ce matin. J'aimerais parler de la marche par l'Esprit Saint, en prenant des exemples de la parole de Dieu. Je vais prendre des exemples de la Bible pour montrer qu'il y a des challenges qui vont nous tenter, des situations qui vont nous tenter de dévier de la marche par l'Esprit Saint. Il y a une règle d'or qui est d'écouter la voix de Dieu, de laisser cette chaîne entre lui et nous pour qu'il puisse nous guider en toutes circonstances. Et si je veux résumer la conclusion de tout ce que je souhaite parler, la recette finale pour l'échec de vaincre ce monde et d'entrer dans le ciel, c'est de garder une oreille tout le temps ouverte à la voix de Dieu pour qu'il puisse nous guider. Et alors que je parle de ces choses, je voudrais dire combien nous sommes privilégiés ici à la mission. Nous avons souvent parlé de notre directeur, comment il a prêché la vérité, comment il a montré le chemin à travers de ses cultes, de ses prédications. Mais mes amis, au-delà de tout cela, combien nous sommes privilégiés d'avoir un exemple à suivre au travers de lui. Qui nous donne une direction claire dans tous les challenges que nous avons à faire face. Alors, commençons par le verset que j'aimerais bien lire ensemble, qui montre les différents challenges que nous avons dans la marche avec Dieu. Dans Philippiens 1, verset 9. « Donc, Philippiens 1, verset 9. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. Et ensuite, verset 10, pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ. Au verset 9, il est dit que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. Et dans la Bible anglaise, il est parlé du discernement. Parce que, mes amis, la vie va nous apporter, va t'apporter virtuellement jour par jour, heure par heure, minute par minute, des situations où toi et moi, nous devons discerner ce qui est vrai, ce qui doit être fait dans cette situation spécifique. Parce qu'il y a différents aspects des choses que toi et moi, nous devons garder en tête dans chaque situation. Chaque situation, il y aura quelque chose du moi, du ego que je peux retirer de cette situation. Et je vois la situation uniquement dans la lumière de ce que moi, je peux récupérer et recevoir de cette situation. Il y a un autre angle à chaque situation. Les besoins des gens dans ces situations. Est-ce que que ce soit des besoins spirituels ou physiques? Des besoins charnels ou des besoins pour le royaume de Dieu? Chaque situation pour laquelle toi et moi, nous pouvons voir les choses d'une façon charnelle, où je peux agir soit d'une façon charnelle par la chair, qui apporte la gloire et la satisfaction à ma propre chair, où je me mets en colère, je renvoie une personne, je lui dis bien ce que je pense de lui. Ou il y a une situation spirituelle, une façon spirituelle de gérer une situation en marchant par l'esprit. La fierté en moi va avoir une certaine. Va prendre un certain angle dans cette situation. Dans chaque situation, il y a une possibilité que ma fierté soit blessée. Est-ce que je vais permettre que cela se passe? Ou est-ce que je vais prendre une décision qui va permettre de sauver ma fierté? Est-ce que je vais faire quelque chose qui est bon pour les gens, qui est populaire? Ou est-ce que je vais réagir d'une façon qu'il y aura l'approbation de Dieu et la bénédiction de Dieu dans ce que je fais. Et ensuite, il y a un autre aspect dans chaque situation. Les choses que je vois avec mes yeux, la situation que je peux voir avec mes yeux et expérimenter. Ou l'aspect spirituel que je ne peux voir avec mes yeux humains. Le monde des démons et des forces sataniques qui sont invisibles et qui sont en train d'agir dans cette situation. Mes amis, puissions-nous ne jamais nous rester assis en arrière et arrêter d'être vigilants si nous devons rester aiguisés pour pouvoir agir, répondre dans chaque situation. Et c'est pourquoi nous avons besoin d'être spirituellement aiguisés pour ne pas tomber dans le danger d'être comme un couteau qui n'est plus aiguisé. Ces principes que j'ai démontrés, j'aimerais prendre des exemples de la vie de deux hommes de Dieu. Et certains de ces points, je les partageais avec un certain groupe de personnes, mais ça continue de revenir vers moi et le Seigneur met ce fardeau en moi, même pour aujourd'hui. Alors prions une nouvelle fois. Oh Dieu, s'il te plaît, parle-nous et guide-nous. Et bénis ce culte. Au nom de Jésus-Christ, oui, nous te demandons. Amen. Donc le premier exemple que j'aimerais prendre est celui du roi David. Et j'aimerais vous démontrer comment, lentement mais sûrement, Dieu a apporté David au point où il était de moins en moins dépendant des hommes et toujours plus dépendant de Dieu. Nous savons comment Dieu a testé sa foi en le mettant dans des situations où il a dû se battre contre le lion. Après qu'il ait passé avec succès ses tests, il a mis face à Goliath. Alors réfléchis un peu. Il ne devait pas être très spirituel. Je vais juste me concentrer sur ce que Dieu m'a donné, les ours et les lions. Parce qu'avec Goliath, il y avait des choses pratiques qui devaient rester dans sa pensée, toujours dans sa pensée. Les lions et les ours n'avaient pas été formés à la guerre, entraînés à la guerre. Les ours et les lions n'avaient pas été entraînés à utiliser la lance. David devait garder cela présent à sa pensée afin de vaincre Goliath. Et pourtant, il a dû garder sa foi, garder sa confiance en Dieu pour aller contre Goliath. Une fois de plus, Dieu lui a accordé la victoire. Et ensuite, il y a eu le prochain test. David est revenu lorsque l'Arche de l'Alliance est rentrée à Jérusalem. Et c'était une occasion remplie de joie. Et il a dansé devant l'Arche de l'Alliance. Et quand il est rentré à la maison, sa femme lui a parlé et elle lui a dit « Oh, comme le roi d'Israël a été un embarras, il a fait honte à son peuple aujourd'hui. Tu t'es humilié toi-même devant tous aujourd'hui. David, tu es roi. Tu devrais te comporter en toutes circonstances comme un roi. Tu ne peux pas danser comme un clown. C'est incroyable comment certaines personnes sont victorieuses dans de grands challenges, de grandes difficultés lorsqu'ils font face à Goliath ou à des ours. Mais quand ils rentrent à la maison, ils ont du mal à tenir ferme. C'est à la maison où beaucoup de chrétiens détruisent leur propre témoignage. Et alors tu penses, mais c'est un merveilleux prédicateur, un merveilleux enfant de Dieu, mais à la maison, il n'arrive pas à rester spirituel et il devient charnel. Et à la maison, il n'a aucun succès, il chute. Mais dans ce test qui a été mis devant lui, David a réussi à se comporter correctement devant sa femme, Mica, la fille de Saul. Il a conquis. Ensuite, il y a eu la bataille contre les Philistins. Et Dieu le met dans une situation où il a dû fuir comme des mains de Saül, la nuit et le jour. Il a été chassé comme un renard, nuit et jour, comme s'il était un lâche. Et jusqu'au jour où il a rencontré une situation où il était en train de fuir le roi Saül, et il est arrivé à un point où il n'avait plus de nourriture à manger. Il est arrivé à la ville de Nob et il n'y avait plus de nourriture à manger. Alors imagine cela. Et il s'est rendu vers le prêtre. Il a dit, tu as le pain sacré avec toi dans le temple. Est-ce que tu ne peux pas me donner de cela à manger? Et vous savez ce que le prêtre devait faire? Le prêtre sacrificateur Abimelech, il a tordu la loi, il a changé la loi ce jour-là pour le roi David. Parce que d'une façon strictement parlant, il n'y avait que les sacrificateurs qui avaient le droit de manger de ce pain. Strictement parlant, ce pain ne devait être mangé que dans le lieu saint et nulle part ailleurs. Alors David attendait que le sacrificateur Abimélec va à l'encontre de la loi de Moïse pour qu'il puisse recevoir de la nourriture à manger. David, comment est-ce que tu peux faire une telle chose? N'as-tu pas dit, le Seigneur est mon berger? Je ne manquerai de rien? Alors, est-ce que le Seigneur ne pourvoirait pas à tous tes besoins? Est-ce qu'il fallait que tu arrives à ce point où tu demandes à un sacrificateur d'aller à l'encontre de la loi pour que tu puisses manger un bout de pain? David, tu as perdu ta foi. Tu as perdu ton obéissance envers Dieu. Alors, permettez-moi de vous dire cela, mes chers amis. C'est une faiblesse que les cerveaux européens ont tendance à chuter là-dedans. Avec la façon logique, légaliste de penser aux choses, il doit y avoir des règles spécifiques, sinon cela va contre Dieu. Et je dis cela de nouveau, et je l'ai déjà dit auparavant, Dieu merci que nous ayons des frères noirs qui servent Dieu d'une façon tout entière afin que les blancs ne soient pas déviés en suivant leur propre conception et leur propre logique. Et Dieu merci pour un dirigeant qui a été capable de dire, Dieu lui a montré qu'il fallait envoyer sur la lune son propre cerveau, sinon il n'arriverait pas à suivre le Seigneur dans ce qu'il lui demandait. Heureusement, le Seigneur a justifié David dans le Nouveau Testament. Il est mentionné les pharisiens comment ils ont intercepté les disciples qui mangeaient du blé dans les champs alors qu'ils marchaient. N'as-tu pas reçu comme David du pain comme David avait reçu dans le temple alors qu'il de la part du sacrificateur? Les hommes ne sont pas faits pour le sabbat. Le sabbat est fait pour les hommes. Oh, mes amis, le fait d'entendre le Seigneur, la voix de Dieu dans ces situations très sournoises. Et je peux vous dire cela, si Dieu n'avait pas justifié David, beaucoup auraient maintenu le fait que David avait péché lorsque il a demandé ce pain du sacrificateur. Et le diable savait combien c'était une situation très sensible, subtile. Parce que la situation d'après, Saül est arrivé dans cette ville et il a entendu ce que le sacrificateur avait fait. Et Saül a pris tous les sacrificateurs dans cette ville et il les a exterminés. Il les a mis à mort. David aurait pu penser qu'il est responsable de la mort de ces sacrificateurs, de ces prêtres innocents. Et rappelez-vous que Satan est intelligent. Il est celui qui va venir vers, qui vient vers toi et qui te dit, David, tu as demandé au sacrificateur de détourner la loi. Tu es le responsable de la mort de ces personnes innocentes en leur forçant de te donner du pain. Oh mes amis, au travers des années, combien de personnes ont accusé l'homme de Dieu en l'accusant de choses dont il n'était même pas responsable dans l'œuvre où nous sommes. Et ensuite, soudainement, alors on va laisser de côté David pour un moment. Alors ici sont les prêtres. Ils n'étaient pas des héros comme David. Ils n'étaient pas habitués aux tests que David devait traverser. Et ils n'étaient pas des personnes importante qu'on peut s'attendre que Dieu les attaque, que le diable les attaque. Ils étaient simplement des prêtres. Et soudainement, ces personnes ordinaires ont été mises dans le même feu que la fournaise dans laquelle Daniel a été jeté. Tout d'un coup, ils ont été tentés d'une façon aussi intense que les situations dans lesquelles David avait été testé. Mes amis, si tu t'associes au Seigneur Jésus, alors attends-toi à n'importe quelle attaque du diable. Ne pense pas qu'en restant... prenant un profil bas, tu ne seras pas attaqué par le diable. À partir du moment où tu décides de suivre Christ, de donner ta vie pour Christ, de tout lui donner, alors sache que tu es un ennemi du diable et il fera tout ce qui est dans son pouvoir pour te faire déserter et pour trahir le Seigneur. Il va apporter des tentations au travers de ton chemin qui vont t'époustoufler. Il va t'accuser et se tenir devant toi d'une façon en rugissant. Alors sois fidèle à Dieu. N'abandonne pas. Et c'est ce qui s'est passé. Quand ils ont attaqué le responsable de cette œuvre, ici, alors ça, c'est une chose. Ça, on pourrait le comprendre. Parce que l'arbre le plus élevé reçoit toujours le plus de vent. Mais ils ont attaqué des personnes ordinaires qui vivaient sur la mission ils attaquaient d'une façon tout aussi intense et sévère que les tentations qui sont tombées sur notre dirigeant. Et mes amis, si tu as été capable de vaincre cette attaque et cette tentation d'être rendu confus, certaines personnes ont été tellement confus par toutes ces attaques qui avaient été utilisées, confus qu'ils ne savaient même plus dans quelle direction se tourner. Des enfants se sont tournés contre leurs parents. Les amis les plus proches sont devenus les plus grands ennemis. Et cela a paru si logique. Ben oui, il y avait des choses qui étaient pas justes. David a fait quelque chose de mal. Il n'aurait jamais dû faire cela. La question n'est pas ce que les hommes disent, mais ce que Dieu dit par rapport à ce que tu as fait. Alors les choses sont devenues encore plus dures pour David. Il a atteint un point où il a dû fuir vers les Philistins pour ne pas pécher contre Dieu et en tuant loin de Dieu Saül. Rappelle-toi que toutes ses actions, toutes les situations dans lesquelles il s'est trouvé, c'était parce qu'il ne veut pas pécher contre Dieu et il ne voulait pas tuer loin de Dieu le roi Saül. Même si Saül était un homme à moitié fou et dense et il arrivait à un tel point si désespéré qu'il s'est enfui comme un renard chez le peuple ennemi, les filles. Beaucoup de commentaires disent que David a péché en se cachant avec l'ennemi chez les Philistins. Peut-être, mes amis, je vais vous choquer, mais je ne vois pas qu'à n'importe quel moment, Dieu a été déçu de l'attitude de David. On ne voit à aucun moment qu'il était contre lui. Et un jour, il y avait un mur entre les Philistins. Non, pardon, une guerre. Et à un moment, David a dû aller contre son propre peuple parce qu'il se tenait avec les Philistins. Mais Dieu a ouvert un chemin pour lui. Les nobles des Philistins ils ont réagi en disant, mais on ne peut pas laisser David aller à la bataille avec nous parce qu'il va aller à l'encontre de nous. Il va se mettre contre nous. Et alors, Dieu a répondu à la prière de David. Puis-je dire cela de nouveau? Je crois que Dieu a répondu à la prière de David et lui a trouvé une situation de sortie pour ne pas à se battre contre son propre peuple. Parce que même s'il avait été, il était allé se battre avec son propre peuple contre les Philistins, Saül l'aurait quand même tué. Et alors, on est arrivé à un moment où je pense que c'était le moment le plus solitaire dans la vie de David. Alors, ne sois pas surpris, mes amis, si Dieu te fait passer par un point de solitude, par un état de solitude. David et ses hommes sont retournés à Ziklag, là où ils habitaient. Et qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Alors qu'ils étaient partis, les le peuple d'Amalek avait emmené tous leurs enfants, toutes leurs épouses en captivité. Ils avaient emmené captifs. Alors, rappelle-toi, pendant tout ce temps, David avait un groupe d'hommes qui s'étaient alliés avec lui et qui allaient avec eux. Et alors qu'il fuyait Saül, ces hommes se tenaient avec David. Mais ce jour-là, alors qu'ils sont revenus à Ziklag et qu'ils ont vu que leurs enfants et leur épouse avaient été emmenés captifs, ce petit groupe qui était le seul groupe qui était loyal à David, ce groupe s'est tourné contre David. Et mes amis, non seulement ils n'ont pas accusé David, mais nous lisons qu'ils ont voulu le lapider à la mort. Et je suis sûre que le diable était là pour tenter David et se mettre en colère. Mais qu'est-ce que vous pensez de moi? Mes enfants et ma femme ont été aussi prises. Alors pourquoi est-ce que vous m'accusez? Qu'est-ce que j'ai fait? Je n'ai rien fait de mal. Je ne voulais pas cela. Et David aurait pu se mettre en colère. Et il aurait attristé l'Esprit Saint. Il aurait pu perdre son sang-froid. Combien si souvent nous perdons notre sang-froid, nous sommes complètement inutiles. Nous n'avons plus personne vers qui aller. Mes amis, mes plus proches sont tournés contre moi. Je suis accusé faussement, je ne suis pas fautif et ils m'accusent. Combien nos leaders ont dû passer par cela, non pas une fois ou deux fois, même pas 10 fois, je ne sais pas combien de fois ils ont dû passer au travers de cela. Et mes amis, je le dis, honte à toi et honte à nous si nous sommes pas tenus avec nos leaders, nos responsables pendant ces moments. C'est une honte si nous ne l'avons pas fait. Mais ce qui a sauvé David, il a été accusé faussement. Il a perdu tout ce qu'il possédait Il a perdu sa femme et ses enfants. Il a perdu son groupe d'hommes qui se tenaient avec lui, qui se battaient avec lui. Est-ce qu'il a abandonné sa foi dans le Seigneur? Est-ce qu'il a dit, Seigneur, désolé, c'est impossible maintenant de te suivre. Il n'y a personne qui peut te suivre. Tu es un Dieu dur qu'aucun homme ne peut suivre. Tu nous dis dans ta parole, tu es rempli de miséricorde, tu es un Dieu merveilleux, mais tu es un Dieu qui frappe, qui est sans miséricorde. Tu vois combien j'essaie de te servir et il n'y a même pas de remerciement. La seule chose que tu fais, c'est que tu me corriges, tu me frappes, toujours à nouveau. Mais David n'a pas agi ainsi. La Bible dit qu'il est allé et qu'il est allé récupérer de la vigueur dans ce Dieu qui était cruel. Oui, il est allé courir vers Dieu. Il est allé prendre du temps avec lui et il a repris des forces dans le Seigneur. Et il a repris des forces et il s'est encouragé. Et qu'est-ce qu'il a fait ensuite? Et est-ce qu'il est allé en disant, vous savez? Vous savez quoi? Je vais aller récupérer ma femme et mes enfants, mais je ne vais pas aller avec ce groupe d'hommes parce qu'ils m'ont trahi. Et ils ont, après les avoir haïs, il a pris son sac et il est parti. Il a dit, de toute façon, je ne peux pas m'entendre avec ce type de personne. Non, il est revenu encouragé. Il a rassemblé de nouveau ce groupe d'hommes. Il les a encouragés et ils se sont rendus contre les Amalécites pour récupérer leurs femmes et leurs enfants. Oh, quel exemple! Mes amis, je vous le dis à nouveau, Paul dit ici, que tu puisses discerner ce qui est important en ce moment. Quelle est la meilleure décision à prendre? Comment dois-je gérer cette situation? Que tu puisses être sincère et irréprochable pour le jour de Christ, pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Dieu. Alors je vais lire ce qu'une autre traduction dit, afin que tu puisses, après avoir été mis au test, que tu puisses reconnaître la vraie valeur. Valeurs, les vraies valeurs pour discerner ce qui est la meilleure façon, la meilleure attitude chrétienne. Afin que tu puisses être pur et irréprochable pour que ce ne soit pas une occasion de chute pour n'importe qui. Mes amis, au travers de tout cela, David est resté irréprochable et pur et n'a pas été une occasion de chute pour quiconque. Puisses-tu dire, est-ce que tu peux également dire cela? Est-ce que tu n'as pas été dans certaines situations une occasion de chute où tu as permis que la situation, les attitudes de certaines personnes te salissent et que tu as perdu ta pureté? S'il y en a, alors, mes amis, c'est un temps de grâce et tu peux encore mettre les choses en règle. Alors, je vais en arriver au dernier exemple, l'exemple d'Abraham. Nous savons qu'Abraham ne pouvait avoir d'enfants, mais que Dieu lui avait promis à lui et à sa femme Sarah qu'ils auraient un enfant. Et alors qu'il vieillissait et que Sarah ne recevait pas d'enfants, alors ils ont commencé à trouver un plan B. Et alors Sarah a dit à Abraham, prends une autre femme pour toi. Au moins, tu auras un fils par elle. Et alors, Abraham a pris Agar comme sa deuxième femme. Et à partir de cela, Ismaël est né. Et ensuite, nous lisons qu'une chose incroyable s'est passée. Alors qu'Ismaël avait déjà 13 ans, Sarah a vu quelque chose. Et elle a dit à Abraham, alors renvoie Agar avec son fils dans le désert. Et la Bible dit que c'était quelque chose qui était dur pour Abraham parce qu'il aimait son fils Ismaël. Mais Dieu a dit, fais comme Sarah te l'a dit, de grandes nations vont naître d'Ismaël. Pense un instant, tu chasses une femme et son fils, non pas dans la ville où il y a d'autres personnes qui peuvent l'aider, mais dans le désert où il n'y a pas d'eau et il n'y a personne autour. Et ça, c'est ce que Abraham a fait. Mais nous lisons que le Seigneur a sauvé leur vie parce qu'il a créé une fontaine, une source là où il se trouvait dans le désert. Et Agar a pu nourrir, a soifé, apporter de l'eau à son fils. Alors, on peut dire, Dieu merci, le Seigneur a été fidèle, ça aurait été terrible si Sarah avait été renvoyée dans le désert et serait morte là-bas. Non, pardon, Agar. Mais peut-être que ce n'est pas ce qu'a fait Agar. Parce que nous lisons que Agar s'est rendue vers son peuple en Égypte et a trouvé une femme pour son fils. Peux-tu t'imaginer qu'elle aurait pu aller dire à tout le monde en Égypte combien Abraham et dire à tout le monde, mais dire contre lui et dire combien Abraham a été méchant envers lui. Elle aurait pu les pousser à tous se tourner contre Abraham en disant c'est un homme fou, il n'a pas le droit de vivre dans ce monde. Rappelle-toi, Abraham se promenait, allait de par le désert avec toute sa famille. Et elle aurait pu noircir son nom de partout où il passait. Et alors, il se rendait d'un endroit à l'autre en demandant la permission de pouvoir rester avec avec sa famille, ses troupeaux. Et Agar aurait pu passer de partout et noircir son nom, salir son nom. Et peut-être qu'on aurait pu dire, il aurait été préférable qu'elle meure dans le désert. Tu n'aurais pas dû faire vivre Agar et Ismaël. Mais cela, où est-ce que cela a commencé? Cela a commencé lorsque Sarah a vu Ismaël qui réagissait d'une façon méchante, qui taquinait Isaac. Le mot hébreu et pour qui a été utilisé, c'est tzakak. C'est railler, se moquer, rire, soit par supériorité, soit pour le mépriser. Cela peut également signifier jouer d'une façon sexuelle. La Bible dit qu'un roi avait vu Jacob qui jouait avec Rebecca. En fait, il a réalisé ensuite que c'était sa femme. Nous ne savons pas ce que Ismaël faisait à Isaac, s'il jouait avec lui d'une façon sexuelle. Ou s'il le raillait et tirait, pincer ses cheveux et puis l'autre le giflait et alors il courait vers sa maman et disait ah, il m'a giflé. Puis-je dire cela aux jeunes gens, aux enfants parmi nous? Dieu prends sérieusement ce que tu fais et ce que tu dis pendant les occasions de jeu, pendant que tu joues. Ne pense pas, on s'amuse juste, on est que des enfants. Dieu a pris les actes et les paroles d'Isaac d'une façon si sérieuse que il est en arrivé au point où il a été renvoyé et pendant le reste de sa vie, il a dû vivre sans père. Qu'est-ce que vous parlez? À quoi vous jouez? Qu'est-ce que vous disiez quand vous jouez? Est-ce que tu fais des choses qui sont sales? Est-ce que tu as porté tout cela à la lumière? Est-ce que tu as demandé le pardon de Dieu? Qu'est-ce que Ismaël aurait dû faire? Et en cela, je vois ce que pour moi est devenu le cœur, au cœur de ce, de la façon dont Dieu travaille dans cette œuvre. Si Dieu avait réellement parlé et si Ismaël avait entendu la voix de Dieu et avait été convaincu de son péché, Ismaël aurait dû dire « Maman, je dois retourner vers mon père et je dois revenir vers tante Sarah et je dois revenir vers Isaac et je dois demander pardon parce que Dieu m'a dérobé ma paix, même si maintenant je suis dans un autre peuple et que j'ai reçu une femme, je n'ai pas la paix parce que je n'ai pas mis les choses en règle. Ça aurait dû être quelque chose d'humiliant. Cela aurait pris du temps. Cela aurait été quelque chose de honteux. Mais cela aurait permis que le pardon de Dieu devienne quelque chose de précieux. Mais qu'est-ce que nous faisons? Nous nous mettons de côté les situations où nous avons péché dans le passé. Nous ignorons la voix de l'Esprit Saint. Je refuse de demander pardon, c'est trop difficile. Mais je continue de proclamer que je suis chrétien. Et qu'est-ce que tu fais? Tu rends l'Évangile quelque chose de pas cher. Oui, tu continues à aller à l'église, tu continues à proclamer que tu es chrétien et tu proclames que tu as reçu le pardon de tes péchés, mais c'est un évangile de bas de gamme. Alors, laissez-moi vous lire un texte que sûrement beaucoup d'entre vous connaissent. De Dietrich Bonhoeffer, qui était exécuté à la fin par Hitler. Il était prédicateur en Allemagne et il a écrit un texte sur la grâce bas de gamme. Il dit la grâce pas de gamme, on le vend au marché à une façon pas chère. Le baptême, le pardon des péchés, la consolidation des religions, tout cela est balancé d'une façon pas chère. Et la Sainte Seine, pardon. La grâce est présentée à l'Église comme un grand trésor. Qui déverse d'une façon généreuse aux chrétiens sans limite. Qui est déversée sur les chrétiens. Parce que l'essence de la grâce dont nous parlons, en disant le compte a été payé par le Seigneur Jésus il y a bien longtemps, Et parce que Jésus a payé pour cela, tout le monde peut l'avoir maintenant d'une façon pas chère, pour rien. On peut avoir la grâce de Dieu sans payer. Ça ne coûte rien du tout. Et le prix que Dieu a payé, c'est sans limite. C'est pourquoi la grâce est sans limite. On peut faire ce qu'on a envie et expérimenter la grâce. Et alors, il dit, qu'est-ce que ça serait comme grâce si ce n'était pas cher? Ça, c'est ce que devrait être la vraie grâce. La grâce pas chère prêche le pardon sans repentance. Le baptême, sans aucune discipline d'église, dans l'église. Oh, je vous dis que ce sujet de la discipline de l'église est quelque chose de terrible. Tu n'es pas Dieu. Je vis devant Dieu. L'église ne peut pas me discipliner pour qui ils se prennent. La Bible dit que la grâce pas chère, c'est une église sans discipline. La communion sans confession. La communion sans confession. Le pardon sans confession personnelle de nos péchés personnels. La grâce pas chère, bas de gamme, c'est recevoir la grâce sans être un disciple. La grâce sans la croix. La grâce sans le Seigneur Jésus. Tu as la grâce juste par le fait que tu appartiennes à une église. Mais qu'est-ce qui est à la grâce précieuse qui est la grâce qui coûte est un trésor caché dans un champ. Et pour l'atteindre, la recevoir, un homme devra tout vendre. Ce sera la perle de grand prix à acheter, pour laquelle chaque homme doit vendre toutes ses possessions. C'est être dirigé par Christ comme notre roi. Au point où l'homme sera prêt à s'arracher son œil au lieu de pour éviter de chuter. Est-ce que tu es si sérieux dans ta marche avec Dieu que tu es prêt à arracher ton œil? C'est l'appel de Jésus-Christ envers ses disciples qui lâchent leur bateau, leur filet de pêche pour suivre Christ. Combien si souvent je n'ai pas vu des chrétiens qui suivent Christ, mais dès qu'ils reçoivent une qualification, un diplôme, un job, alors ils quittent Christ et ne laissent pas leur bateau, ils quittent Christ. La grâce qui coûte, c'est l'évangile qui doit être prêché toujours à nouveau et à nouveau. C'est le don que nous devons appeler, c'est la porte vers laquelle nous devons frapper. cette grâce est coûteuse parce qu'elle nous pousse à le suivre. Elle nous force à le suivre. Elle est chère. Parce qu'elle nous pousse à suivre le Seigneur Jésus. Ça, c'est une grâce qui coûte. C'est coûteux parce que cela coûte la vie entière d'un homme. Alors vraiment, Ismaël, est-ce que c'était trop coûteux pour toi de retourner vers Abraham et demander pardon? Est-ce que cela est trop coûteux pour toi pour obtenir cette paix avec Dieu? Parce que nous vivons devant Dieu et non pas les gens. Aux yeux des gens, Ismaël était pauvre, il avait souffert, mais aux yeux de Dieu, il y avait une autre histoire. C'est coûteux parce que cela condamne le péché et la grâce, parce que cela justifie le pécheur. Et par-dessus tout cela, c'est coûteux parce que cela a coûté la vie du Fils de Dieu. C'était la grâce parce que Dieu n'a pas retenu la vie précieuse de son Fils et l'a donné pour le salut de nos âmes. As-tu oublié cela? As-tu oublié le prix que Dieu a dû payer pour toi et moi pour recevoir le pardon de nos péchés? En vérité, as-tu vraiment oublié cela? Oh, chers amis, ne considère pas la grâce de Dieu bas de gamme juste en vivant une vie pas chère. Parce que c'est là où Agar et Ismaël ont atterri. Combien si souvent le diable a dû venir vers Ismaël en disant « Haïs ton père Abraham pour ce qu'il a fait pour toi, pour ce qu'il a fait envers toi. » Vous voyez pourquoi Paul dit « Tu dois discerner dans chaque situation ce qu'il a la chose juste à faire. » Alors, allons vers un dernier exemple d'Abraham. Nous lisons que lorsqu'il est venu avec Lot, son neveu, lorsqu'il est arrivé autour de la ville de Sodome et Gomorrhe, alors les serviteurs d'Abraham et de Lot ont commencé à argumenter, à se quereller à cause de l'eau pour leurs troupeaux. Alors on pourrait dire, c'est rien, qu'importe. Ils ont qu'à se battre entre eux, c'est pas grave, ça ne me touche pas. Mais cela a attristé Abraham. Parce qu'ils étaient en train de se quereller. Mes amis, ne laissons pas des querelles, laisser des querelles entre nous. Abraham a considéré ces querelles d'une façon si sérieuse qu'il est venu vers Lot et a dit, il vaut mieux que nous nous séparions. Nous ne pouvons permettre ces querelles, non pas l'un envers l'autre, mais entre nos serviteurs. Abraham est le père spirituel de Lot. Il aurait pu dire à Lot, je suis désolé mon garçon, mais il faut que tu ailles quelque part d'autre avec tes gens. Mais Abraham était prêt à être plongé dans une vie inconfortable en laissant Lot choisir là où il voulait se rendre. Et cela me fait penser à un moment que je me rappelle. Il y avait des années, il y a déjà des années de cela où le pasteur Stegen a pris un culte dans la salle à manger. Alors tous les cultes se passaient dans la salle à manger. Et alors, il n'y avait plus de place à l'intérieur. Alors, je me suis assis sur le mur en briques à l'extérieur du hall. Et il a parlé de ce passage. Et il a dit, si Lot voulait faire la bonne chose, il aurait dit, Père Abraham, je préfère perdre mes employés que de me départir de toi parce que l'onction repose sur toi, Abraham. Si Dieu est, si, si Lot était vraiment sérieux pour garder et ne pas rabaisser à une façon bas de gamme cet évangile, il aurait pu venir demander pardon à Abraham en disant, Père Abraham, je reste avec toi, on va y arriver ensemble. Mais ils ont laissé ces querelles les séparer. Oh, mes amis, est-ce que nous savons combien nous abîmons l'œuvre et l'évangile en laissant des querelles. Et là où tu t'es querellé, est-ce que tu as demandé pardon? Ou est-ce qu'il y a encore des arguments, des choses où tu t'es querellé, des choses que tu as dit que tu n'aurais pas dû dire? Que tu n'as pas mis en règle. Alors ça, c'est mon dernier point. Je vous ai dit là où David a atterri. Il a été déserté, il a été se retrouver seul, sans son groupe d'hommes, et il s'est accroché à Dieu. Et si tu sens que Dieu est en train de te tailler dans ta vie et il coupe des branches qui blessent au point où tu te dis je suis inutile. Alors ne laisse pas le diable te dire tu es inutile. Tu ne signifies plus rien pour quiconque, pour plus personne. Non. Tu dois dire, Seigneur, même si tu me tailles, même si tu coupes des branches qui me font saigner, même si tu te retrouves presque sans rien et tu dis je reste avec rien, je vais te servir avec le peu qui reste et je vais continuer à te servir. Je l'ai déjà dit, mais laissez-moi vous le dire à nouveau. Il y avait un temps où Dieu a fait cela dans ma vie, où je vais dire plutôt la première fois où Dieu a fait cela en moi, j'étais un jeune étudiant et je suis allée vers la Bible une seule et j'ai dit, Ô Seigneur, tu as rendu ma vie difficile, la vie est dure pour moi. Et j'ai pensé que le Seigneur va me donner un passage des psaumes qui me dit combien je suis précieux ou d'Ésaïe qui me montre combien je suis précieux à ses yeux. Et j'ai ouvert la Bible. J'ai prié, j'ai ouvert la Bible. Et qu'est-ce que j'ai lu? Un verset qui dit, c'est bon pour un homme de porter le fardeau dans sa jeunesse. Et alors j'ai dit, Seigneur, si tu me frappes, même si tu me frappes, que je me retrouve sur le sol, je vais m'accrocher à toi, même si je suis par terre, je m'accrocherai à ta cheville. Mes amis, nous avons un évangile qui est précieux. Puisse le Seigneur, puisse Dieu nous accorder la grâce de discerner ce qu'il veut dans chaque situation. Et cela, je le prie que sa grâce puisse abonder dans la connaissance et dans le discernement, afin que tu puisses approuver les choses qui sont excellentes, que tu sois sincère et sans offense jusqu'au jour du Seigneur. Nous sommes reconnaissants au Seigneur pour cette parole que nous avons reçue. Je suis convaincue que on nous a enseigné sur l'essence de la foi. Parce que nous avons entendu que la foi n'est pas quelque chose juste que tout le monde reçoit, mais c'est quelque chose qui doit être obtenu à un prix et c'est individuel. Chaque personne doit pouvoir savoir qu'il a reçu la foi. parce que Paul dit, nous n'avons pas besoin de rester à l'endroit où nous sommes enseignés, où mais nous devons atteindre un point où nous devons savoir nous-mêmes ce que nous devons croire pour atteindre ce point. Et la marche par l'esprit, écoutez bien, c'est quelque chose de bien différent que de marcher par la chair. Et si nous lisons dans 1 Corinthiens 13, nous lisons sur l'amour et nous lisons exactement comment l'amour doit être. Ça ne pense pas de lui-même et ne se soucie pas de lui-même, mais il pense aux autres. Alors pense, réfléchis, lorsque David a eu l'occasion de couper un morceau du manteau de cet homme qui cherchait à le tuer, il a été touché dans son cœur et il savait comment est-ce que je peux porter la main sur cet homme. Regarde comment les gens prennent en main la foi. Tu penses que tu penses ce que tu veux, tu maudis quand tu veux maudire, tu fais ce que tu as envie de faire. Il n'y a rien qui te dirige, qui te charge ou qui te guide. Ici, nous lisons que si nous craignons réellement le Seigneur, quand nous devons prendre une décision, nous savons ce que nous devons faire à cause de la crainte que Dieu a mis en nous. Nous avons entendu comment la grâce est devenue quelque chose de pas cher. Je suis croyant, je suis Dieu et tu es un disciple de Dieu si tu agis ainsi. Si nous suivons réellement Dieu, comment ça se fait que les choses en sont ainsi dans ce monde? Comment les choses sont tellement si dégradées? Si nous sommes de réels disciples de Christ, comment est-ce que ça se fait que nous cachons notre terre dans la terre lorsque les choses se passent mal et nous avons la crainte de nous tenir quand les choses sont difficiles? Si les choses sont réellement vraies, que nous avons rencontré Dieu et que nous marchons par la foi, est-ce que les choses, si nous étions de vrais chrétiens, est-ce que les choses continueraient ainsi dans notre pays comme elles le sont aujourd'hui? Et la parole de Dieu dit par-dessus toute chose, aspire au don du discernement. Et si je suis un chrétien et je n'ai pas le discernement, je n'ai pas le discernement de voir quand je suis dans l'obscurité, que je fais la mauvaise chose, alors je suis dans une très mauvaise situation. C'est un gros problème pour moi. Et alors, tu vas atterrir comme Sarah, où elle se retrouve dans une situation où elle ne peut pas l'expliquer, et alors, elle cherche une solution, et cette solution conduit vers d'autres problèmes. Nous sommes âgés, nous n'avons toujours pas d'enfants, la promesse n'a pas l'air de se passer. Abraham prend une autre femme et alors cet enfant vient et cet enfant cause encore plus de problèmes. Ça, c'est la marche par la chair. Parce que si nous marchons dans l'esprit, nous n'agirons pas d'une façon qui vont causer encore plus de confusion qu'auparavant. Puisse le Seigneur nous accorder le discernement pour discerner la volonté de Dieu. Quand il en est au point de, par rapport à la grâce de Dieu, nous remercions Dieu pour le pardon des péchés, pour Golgotha, pour la purification des péchés. Parce que sans cela, je ne serais pas sûre d'être réellement pardonnée de mes péchés. Chers frères et sœurs, est-ce que ton cœur a été purifié? Est-ce que tu as été pardonné de tous tes péchés? S'il n'en est pas le cas, ce n'est pas surprenant si tu vis dans la confusion et tu laisses les gens s'argumenter et tu les laisses dans des situations de querelle. Tu dis des choses d'une façon facile et tu ne réalises même pas que tu as blessé. Tu entends juste après que tu as fait des choses de la mauvaise façon. Parce que tu marches par la chair. La grâce de Dieu est un don que nous recevons d'une façon libre. Nous n'avons pas besoin de payer pour cela, mais lorsque nous l'acceptons, il doit se passer un changement. Cela change ma vie, la façon dont je me comporte. Si tu as reçu le pardon de tes péchés, mes frères et sœurs, alors arrête avec le péché, arrête avec le fait de garder de la rancune, romps avec tout cela et sers le Seigneur. Seigneur, tu nous as parlé aujourd'hui. Merci pour la parole que tu nous as accordée. Tu veux que nous marchions sur cette terre en ayant la capacité de discerner ce qui est de ta volonté et ce qui ne l'est pas. Tu nous as accordé des exemples de personnes qui ont marché avec toi et comment nous humilier devant toi, comment recevoir le pardon du péché devant toi. Tu nous as enseigné comment un enfant de Dieu est censé recevoir le don de l'Esprit Saint. Puissions-nous ne pas attrister ton Esprit Saint où nous n'avons pas la capacité, nous n'arrivons pas à discerner ta voix. Rends-nous des gens qui discernent, qui marchent par l'esprit et pour qui nous pouvons dire, des personnes à qui nous pouvons dire elles ont du discernement. Et nous te demandons tout cela au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.